Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Les couilles sur la table, épisode 8. S'il y a un livre à lire cette année sur les hommes et la masculinité, c'est bien celui-là. Il s'appelle « Le mythe de la virilité ». Il fait 400 pages et dedans, il y a tout. Des récits historiques, des analyses philosophiques, des anecdotes, des exemples pris à l'art, à la littérature, à la sculpture. Tout est parfaitement expliqué, raconté, sourcé et il se lit comme un roman. Je l'ai lu et relu cette année et j'ai maintenant le plaisir de recevoir son auteur, Olivia Gazalet, pour deux épisodes entiers. Dans le premier, on va parler de sexe. Et dans le deuxième, on va parler de ce que les hommes font aux autres hommes. Olivia Gazalet, merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invitée des couilles sur la table.
Bah merci à vous et merci pour ce que vous venez de dire de mon livre.
Qu'est-ce que ça vous inspire, cette expression ?
Moi, j'aime bien ce qui bouscule un petit peu l'ordre établi et les habitudes. C'est vrai que ça peut... On peut se demander pourquoi une femme met ses couilles sur la table. Mais justement, c'est ça qui est un peu déroutant. Et les couilles étant un symbole comme... Vous allez me le faire dire, je le sais déjà. un des principaux attributs de la virilité triomphale, que vous puissiez vous en emparer... C'est très encourageant.
Puisqu'on va parler de sexe et des organes génitaux, j'aimerais qu'on parle des testicules. D'où ça vient ? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'étymologie de ce mot ?
Oui, parce que c'est très intéressant, parce que ça vient de testis, qui veut dire la preuve, prouver. Et donc, en fait, les couilles sont là pour attester de la virilité de leur porteur. Et c'est même très, très étonnant de voir à quel point elles sont là pour l'authentifier. Depuis toujours, par exemple, il y avait beaucoup de civilisations antiques et pré-antiques qui avaient fait, quand les hommes prêtaient serment entre eux, ils devaient s'empoigner par les testicules.
Mais non, mais ça oui. On le lit dans votre livre. Alors oui. Vraiment, j'ai du mal à représenter la scène. C'est-à-dire, ils étaient en face l'un de l'autre.
Oui, et ils s'empoignaient, ils disaient « je jure que », etc. En s'empoignant. Et donc, en fait, ils avaient fait des testicules le fondement du droit coutumier. Donc, ça prouve à quel point c'était un organe qui était beaucoup plus qu'un simple organe, qui était vraiment un des principaux symboles de la virilité. D'ailleurs, à contrario, l'eunuque, celui qui n'en avait pas, était, surtout avec la chrétienté, mais déjà avant, considéré comme un sous-homme. L'Église va carrément le bannir. Celui qui est eunuque n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel.
Oui, c'est ça. C'est dans l'Ancien Testament.
C'est dans le Deutéronome d'ailleurs. Oui, c'est moi qui me trompe. Oui, absolument. C'est déjà bien plus ancien que le...
Oui, c'est ça. C'est très ancien. Oui, oui. Cette citation du Deutéronome, oui. C'est, vous la citez dans le livre, c'est oui. Celui qui est eunuque, soit pour avoir été froissé, donc par accident, on imagine, soit pour avoir été taillé, donc qu'on lui ait coupé, n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel. Parce que, carrément, il n'est même pas considéré comme un être humain quelque part.
Non, ça prouve à quel point c'était vraiment un sacrilège de ne pas en avoir. Et d'ailleurs, il y a une anecdote beaucoup plus tardive, mais qui est intéressante, parce qu'il y avait un tribunal de l'impuissance au XVIe et au XVIIe siècle.
Ah oui, ça, vous en parlez longuement, c'est vraiment incroyable, ce tribunal de l'impuissance. Racontez, pardon.
Et alors, il y a une histoire, une anecdote tristement célèbre, qui est racontée par Pierre Darmon dans un livre, l'historien Pierre Darmon dans un livre qui s'appelle Si ma mémoire est bonne, le tribunal de l'impuissance, justement. Et c'est une dénommée Madeleine de la Châtre, bien nommée quand même, qui se marie. Le mariage est bel et bien consommé, puisqu'on peut constater que le drap est souillé le lendemain de la nuit de noces. Et pourtant, Madeleine de la Châtre va poursuivre son mari devant le tribunal de l'impuissance en disant « il a bien un membre viril, mais il n'a pas de testicules, donc il est impuissant, donc je demande l'annulation du mariage. Et c'est le juge ecclésiastique de Sens, de la ville de Sens, qui inspecte les parties et fait inspecter plusieurs fois les parties génitales du baron. Et effectivement, elles ne sont pas apparentes. Donc, le mariage est annulé. Donc, le baron ne se laisse pas faire. Il proteste. Il demande à voir le primat de Lyon, si ma mémoire est bonne, qui refait la même procédure et qui, constatant qu'il n'y avait toujours pas de testicules, confirme l'annulation du mariage. Donc, il va jusqu'à demander une audience au pape qui confirme une troisième fois l'annulation du mariage. Et quelques années après, je crois 3 ans après, il meurt. Et là, une autopsie est faite. Je ne sais pas sur la demande de qui. Et on constate qu'il avait bien des testicules, mais qu'elles n'étaient pas descendues. Elles étaient, comment dire, rentrées au-dedans. Et donc, ce malheureux baron a été déclaré puissant à titre posthume. Ça, je trouve ça quand même assez magnifique.
Cette histoire est incroyable.
C'est incroyable.
Le tout sur
incroyable.
La foi de son épouse qui s'appelait quand même Madeleine de la Châtre. Donc, c'est... voilà, on rit parce que ça vient donc de châtrer, enfin, qui est l'action de couper des testicules,
de castrer. Voilà, enfin, c'est terrible.
Quelle histoire, mais en même temps, ça dit tout sur l'importance qu'ont ces couilles, quoi, ces testicules. Et jusque dans le langage courant aujourd'hui, puisque avoir des couilles, c'est quelque chose de très valorisé. C'est toujours dans des expressions assez positives.
Absolument.
En fait.
Et sous la royauté, il ne faut pas oublier que quand la naissance du dauphin, toutes les dames de la cour, ou même je pense aussi pas mal de messieurs, devaient venir admirer la splendeur de ces bourses parce qu'elles étaient le symbole de la transmission du sang royal. Donc, il y avait quelque chose de très, très, très important. Au-delà de l'organe, évidemment, c'est tout un symbole.
Oui, ça me fait penser, cette histoire d'admirer les testicules, aussi que je crois que c'est un plat de choix que de les manger. Il me semble. Non, mais j'ai déjà entendu restaurants. Voilà, il y a des restaurants qui servent des testicules.
De chimpanzés, je crois, notamment.
De chimpanzés, de moutons.
Oui, je pense que c'est une délicatesse. Oui. Que je n'ai jamais goûté personnellement.
Moi non plus.
Je ne peux pas vous dire si c'est bon.
Je ne sais pas. Bon, voilà pour les testicules. Passons maintenant à un organe tout à fait fascinant. Donc, le pénis. Alors, j'appuie sur le mot fascinant parce que l'étymologie de fascinant est vraiment intéressante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rapport entre le fascisme, la fascination et le phallus ?
Alors, il faut déjà commencer par faire une distinction entre pénis et phallus, je crois. Pénis étant l'organe biologique, l'organe de la reproduction. Et si les hommes s'étaient contentés d'avoir simplement un pénis entre les jambes, un organe dévolu à la procréation et aussi pour émettre les émissions d'urine, on aurait pu imaginer qu'un petit dysfonctionnement n'aurait pas été très très grave. Mais ils ont fait du pénis un phallos, les Romains, un phallus, c'est-à-dire un symbole de pouvoir. Et évidemment, ça complique énormément les choses parce que ça implique que ce soit toujours un instrument de pouvoir, donc on puisse avoir le contrôle dessus. Et évidemment, on va sacraliser l'érection comme étant la manifestation explicite de ce pouvoir sexuel. Et la troisième notion qui intervient avec les Romains, c'est le fascinus, c'est-à-dire qu'ils vont nommer le phallos fascinus. C'est très bien montré dans un très beau livre de Pascal Quignard qui s'appelle « Le sexe et l'effroi », où justement, il montre que les Romains vont faire de la sexualité qui était encore joyeuse et polymorphe chez les Grecs, les Romains vont en faire quelque chose de pétrifiant, parce qu'ils vont se subnubiler sur le sexe qui dresse ou ne dresse pas, et c'est eux qui vont en faire véritablement le symbole de la puissance et de la domination. Et il observe que fascinus, c'est la même racine que fascisme, c'est-à-dire quelque chose qui terrifie tout autant qu'il émerveille, quelque chose qui provoque l'effroi, la pétrification. En un mot, la fascination. Donc, ils ont lié, ce que dit très bien Pascal Quignard, c'est que les Romains ont lié en un seul faisceau l'érection, la puissance et la domination.
Et la domination phallique.
La domination phallique.
Des hommes. Et donc, ça donne ce mot de fascinant, que je ne prononce plus du tout en toute innocence. Hein,
oui,
maintenant,
oui,
à chaque
oui.
fois, j'y pense. Ça a changé complètement ma manière de penser la fascination.
Oui, mais la fascination qui comporte une très importante part d'inquiétude. Parce qu'on voit que derrière cette injonction et cette obsession de la puissance, il y a souvent une peur, une panique, si c'est encore un jeu de, encore un beau jeu de mots,
oui.
Une panique de l'impuissance. Donc,
la panique de l'impuissance.
La panique de l'impuissance qui est, chez les Romains, véritablement obsessionnelle. D'ailleurs, ils passent leur temps à se traiter d'impuissants, de mollis, à exiger des preuves de la manifestation de cette puissance. Et évidemment, quand on place le centre de la puissance dans un organe aussi difficile à contrôler, et bien évidemment, on fragilise terriblement. Et c'est ça l'aspect fascinant qui est à la fois très inquiétant, très angoissant, très anxiogène. C'est que si c'est le centre de la gravité, le centre de gravité de la virilité, et bien évidemment, la virilité est hyper vulnérable.
Oui, hyper fragile parce que... ça doit être très angoissant. Enfin bon, évidemment, moi, je ne suis pas porteuse de pénis, donc je ne sais pas, mais apparemment, c'est quand même une angoisse qui prend une place tout à fait considérable, celle de pouvoir bander ou ne pas bander. Or, comme le dit mon poète préféré, ce cher Georges Brassens, la bandaison, papa, ça ne se commande pas. Il en a même fait une chanson. Et on se dit, si ça ne se commande pas, mais après tout, c'est pas très grave. On pourrait dire que c'est pas plus grave que d'avoir, je sais pas, mal aux dents ou d'avoir un peu mal au ventre à cause d'une mauvaise digestion ou d'avoir un bleu. Mais ça devient quelque chose d'absolument dramatique, en fait, de ne pas pouvoir dresser, de ne pas pouvoir bander.
Oui, parce que pour bien comprendre ça, il faut se souvenir que dans l'Antiquité gréco-romaine, et même déjà un peu avant, je pense que ça a commencé à partir du, vraisemblablement à partir du néolithique, d'après ce que nous enseignent des personnes, des anthropologues comme Françoise Héritier, il y a eu cette différenciation fondamentale entre la femme qui, elle, ne se gouverne pas parce qu'elle perd son sang, parce qu'elle perd ses fluides, parce qu'elle ne contrôle pas. La femme ne sait jamais quand elle va avoir ses règles, combien de temps elles vont durer, quand elles vont se suspendre, et puis quand, in fine, vers la cinquantaine, à quel moment ça va s'arrêter. Donc, la femme est réputée se subir. Alors que, par opposition à cette passivité supposée de la femme, l'homme, lui, se gouverne. Et donc, la virilité va se définir sans cesse et siècle après siècle se confirmer dans cette idée de maîtrise dont Aristote va faire vraiment la différenciation principale entre l'homme et la femme. Donc, il y a la supériorité d'abord du sperme sur le lait et puis du sang que l'homme donne son sang, verse son sang. Donc, il se gouverne, donc il est apte à gouverner. Alors que la femme qui perd son sang, elle se subit, donc elle est faite pour subir, elle est faite pour se soumettre. Donc, cette différenciation est fondamentale, ce qui fait que l'homme a absolument besoin de prouver sans cesse précisément qu'il maîtrise et qu'il contrôle. Et c'est pour ça que la perte de contrôle, pour lui, c'est le fiasco. C'est la déroute absolue.
Le fiasco, pardon, c'est donc maintenant c'est passé dans le langage courant, mais un fiasco, ça veut dire d'abord une panne érectile, en fait. C'est, oui, ne pas être capable de nous dresser.
Oui, et c'est une véritable obsession dans toute l'histoire. Et là, il y a des histoires, des anecdotes à n'en plus finir. C'est parce que, à la limite, faire un fiasco passe encore, mais il faut surtout pas que ça se sache. Mmh. Hein, et le Louis XIV lui-même, qui est quand même le parangon de la virilité, guerrier, conquérant, qui un jour, et on peut imaginer que c'est pas la seule fois, il fait un fiasco avec une dénommée Mademoiselle Dutronc. C'est tellement catastrophique qu'il s'évanouit en disant « Mais que va-t-il se passer si cette demoiselle n'est pas discrète et que le bruit va se répandre à la cour que le roi a failli ?» C'est impensable. Donc là encore, il y a une fragilisation terrible puisque chacun sait que la vérité, c'est que ça ne se commande pas.
Enfin, maintenant, on le sait, mais vous vous rappelez bien que pendant toute une époque, on a quand même pris l'impuissance comme un signe de châtiment divin.
Oui, alors ça nous vient de saint Augustin, qui a inscrit donc la panne érectile dans le registre de la faute spirituelle, c'est-à-dire du péché.
Attendez, ne pas être capable d'avoir une érection, c'est un péché.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, il nous explique dans la...
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands.
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la table.
C'était de Dieu que au paradis, Ève n'était absolument pas perturbée par son membre. Il nous dit que son membre ne lui posait pas de questions, de problèmes. D'ailleurs, ils étaient nus. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Ève.
Pardon. Ève n'avait pas ce genre de soucis. Mais pourquoi j'ai dit Ève ? C'est parce que c'est Ève qui va évidemment le pousser à la faute.
Ah bah c'est toujours Ève.
Bien sûr, c'est Ève la tentatrice, c'est Ève la coupable, la fautive. Mais à partir du moment où ils ont tous les deux péché, Dieu va dire à Adam, tu n'as pas voulu obéir à Dieu. Eh bien, à partir de maintenant, ton membre refusera de t'obéir. Et donc, les caprices de l'érection sont, d'après saint Augustin, le châtiment divin consécutif à la faute originelle d'Adam. Et donc, il va nous expliquer que c'est plus seulement, comme vous disiez, un défaut organique, un petit dysfonctionnement passager. Non, c'est un cataclysme spirituel, c'est une faute majeure, c'est une déroute symbolique absolue. Et à partir de ce moment-là, évidemment, si vous êtes véritablement fautif, quand le sexe ne se dresse pas au bon moment. Et le mariage, enfin, évidemment, pour saint Augustin, c'est que dans le cadre du mariage que la question se pose, évidemment, puisqu'il n'y a que de sexualité que dans le cadre du mariage. Donc il dit, le mariage doit être consommé. Ça, c'est une ordonnance divine. Si le mariage n'est pas consommé, là encore, de même que celui qui ne possède pas de testicules, on est rejeté, on est quasiment considéré comme un criminel.
C'est vraiment terrifiant. Et vous racontez d'ailleurs...
En tout cas, un apostat ou un
pêcheur.
Un pêcheur, oui.
Pour ne pas avoir eu d'érection.
Oui. Oui.
Et d'ailleurs, c'était l'un des objets de ce fameux tribunal de l'impuissance là, dont on parlait tout à l'heure.
Oui.
C'était de vérifier, enfin, c'était de juger ces hommes qui étaient impuissants.
Oui, mais et puis ça pouvait aller très loin parce qu'il y avait une épreuve.
Oui, comment ça se passait en fait ?
Le congrès. Alors là, je vous renvoie toujours au même livre de Pierre Darmon. On demandait l'inspection des parties génitales comme ça a été fait au malheureux baron d'Argenton. Mais il pouvait arriver qu'il y ait carrément qu'on demande une épreuve qui s'appelait l'épreuve du congrès et où il fallait pouvoir accomplir, comme on disait, l'acte de chair à l'époque devant 5 médecins et 5 matrones chargés d'authentifier que l'érection avait bien eu lieu et l'intromission et l'émission. Il fallait que tout puisse avoir été dûment constaté. Donc vous imaginez d'où vient quand même.
Ah, la pression, oui. Ça devait vraiment être...
Oui.
Terrifiant. Et encore, ce n'est pas le seul impératif que les hommes aient connu, puisque ce pénis peut devenir phallus, donc en se dressant, mais lui-même est soumis à un certain nombre de normes. Et malheureusement, on va contredire le dicton, parce que des Grecs aux Égyptiens, de l'Antiquité à nos jours, il y a quelque chose qui est très clair, c'est que c'est bien la taille qui compte. La taille, c'est très important.
Oui, mais alors là, y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que ce que je montre dans le livre, au-delà de la question sexuelle, parce que je ne voudrais pas donner l'impression que ça parle que de sexualité.
Non, c'est juste une partie.
Mais d'une manière générale, les injonctions à la virilité sont à la fois coercitives, là on vient de le voir dans l'ordre sexuel, mais elles le sont aussi pour d'autres sujets, elles sont discriminatoires et elles sont surtout paradoxales, ces injonctions. En l'occurrence, l'injonction ici à avoir le pénis de bonne taille, c'est extrêmement paradoxal parce qu'on voit que dans l'histoire, il y a à la fois une stigmatisation des gros sexes, les sexes protubérants, les porteurs de gros phallus sont considérés comme, un peu relevant de la bestialité. Ce sont les, à Rome, ce sont les esclaves ou les sauvages ou les animaux qui ont des gros phallus. Et à la fois, il y a une stigmatisation des petits phallus parce que ce sont ceux qui sont évidemment soupçonnés de ne pas pouvoir dresser. Donc, en fait, moyennant quoi, on n'est jamais dans la bonne. C'est pour ça que je dis que la virilité, c'est quelque chose qui est un idéal après lequel les hommes ont appris à devoir courir, plus exactement, depuis l'Antiquité gréco-romaine. Mais c'est très difficile parce qu'on voit que tantôt, par exemple, à l'époque coloniale, vous aviez à la fois les indigènes qui étaient considérés comme ayant un membre démesuré, hypertrophié. Et c'était pour les colons l'indice de leur bestialité.
Et c'est un cliché, pardon de vous interrompre, mais c'est quand même un cliché qui perdure de nos jours. C'est quelque chose qui se dit dans la pornographie, c'est un fantasme très répandu et c'est un gros cliché, quoi. Par exemple, les Noirs ont un gros phallus, par exemple.
Oui, mais alors il faut bien voir que à cette époque-là, en tout cas à l'époque coloniale, c'était considéré comme très, ces sexes protubérants, c'était un signe de bestialité. C'était ce qui les rapprochait de l'animalité, de la fange, et surtout c'était l'indice d'une sexualité complètement débridée, désordonnée, et donc on les accusait de tout, de zoophilie, de dangereuse, de violeur, de toutes les pathologies sexuelles étaient, venaient se loger dans ce sexe hypertrophié qui est, je pense, largement fantasmatique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque, on taxait les délinquants de la métropole, les prisonniers, les voleurs, on disait qu'ils avaient un tout petit sexe, minuscule, ridiculement petit, hypertrophié, certainement. Enfin, en tout cas, minuscule, ridiculement petit. Et là, on considérait que c'était le signe de leur délinquance et de leur criminalité. Donc, vous voyez qu'on est en plein dans le paradoxe. Les civilisations, mais même on retrouve ce paradoxe à Rome, où vous avez à la fois, le dieu Priape, par exemple. Il était considéré comme très inférieur au dieu Eros. Eros, c'était la figure solaire du désir. Eros, il est représenté avec un sexe minuscule. Et tandis que Priape, ils étaient tous les deux enfants d'Aphrodite. Eros, c'était l'enfant chéri d'Aphrodite, parce que Eros, attention, n'oublions pas, Eros a la capacité de se sublimer, comme on le voit dans le banquet de Platon, donc de se spiritualiser, de s'esthétiser. Alors que Priape, lui, il est enchaîné dans cette espèce d'érection démesurée, douloureuse. Il est figé dans cette contraction indéfinie. Il parvient jamais à la détumescence. Donc, pour les Romains, c'est un signe qui ne se contrôle pas. Donc, comme la virilité, c'est le contrôle. Mais Priape, il nous rapproche de l'animalité et de la fange. Donc, on voit que Priape, avec son sexe démesuré, est un sous-homme. Mais à l'inverse, les tout petits sexes qui ne dressent pas sont aussi stigmatisés. Donc finalement, moi, ce qui m'a intéressé là, c'est de voir que les paradoxes sont constants et que, en fait, ils se traitaient à la fois, je vais être vulgaire, mais il y avait une insulte qui était très courante à Rome, c'était de se traiter de grosse bite. C'était une insulte.
Ah bon ?
Mais en même temps, la bite, pardonnez-moi, qui dressait pas, c'était aussi une insulte. On appelait ça un mollis.
Donc en fait, ils étaient obsédés par leur sexe.
Mais obsédés. Obsédé. D'ailleurs, je ne sais pas si on en est vraiment sorti. Mais surtout, moi, ce qui me fascine, c'est cette obsession qui est tout le temps discriminatoire. C'est que on est stigmatisé quand on a un trop gros sexe, on est stigmatisé quand on en a un trop petit, moyennant quoi. D'abord, qui est détenteur de l'étalon, de la norme, de la bonne taille? voyez, c'est, en fait, ça les rend dingues, ça les rend fous. Ils savent jamais. Il y a cette inquiétude qu'il y a, je crois, dans tous les vestiaires d'hommes. C'est l'obsession de la jauge, l'inquiétude de la comparaison. Enfin, c'est Rousseau qui a dit que l'angoisse humaine venait de la comparaison dans l'état de nature. Enfin, idéal. Les hommes ne se comparaient pas, ils vivaient isolés, donc ils ne souffraient pas de ça. Dès lors qu'on se compare, c'est Dali qui a dit dans ses aveux inavouables, je me suis comparée un jour, j'ai vu que mon sexe était tout petit et il en a éprouvé un énorme complexe. Il dit, je ne pourrais jamais faire craquer les femmes comme une pastèque.
Ah oui, ça, il dit, voilà. moi, j'aurais aimé pouvoir faire craquer les femmes comme des pastèques.
Mais apparemment, il souffrait d'une mauvaise image de son propre sexe. Vous voyez, ça, c'est quand même une chose qui nous est totalement épargnée. Et d'ailleurs,
en tant que femme, vous voulez dire ?
Oui, en tant que femme, bien sûr.
Bon, on a bien d'autres mots qui s'abattent sur nous,
bien sûr. On a bien d'autres mots. Mais en tout cas, on ne se juge pas les unes les autres.
Sur la taille d'un organe.
Enfin, voilà. Même pas sur la taille de la poitrine. Enfin, c'est pas discriminant d'en avoir une petite ou... C'est quelque chose qui est vraiment masculin, la comparaison des attributs sexuels.
La taille du sexe, c'est vraiment, enfin, et on le voit encore aujourd'hui, c'est quand même l'obsession. C'est quand on voit toutes les méthodes qui existent pour faire grossir son sexe, pour l'élargir. C'est le spam du enlarge du pénis, quoi. Il y en a partout, quoi, des publicités pour avoir un sexe plus gros. Or, il y en a aucune qui fonctionne.
Je ne sais pas, mais évidemment, c'est devenu un continent économique, un marché absolument colossal. Mais je vous rappellerai simplement qu'à une tribune mais hyper médiatisée dans le monde entier, il y avait Donald Trump qui était à l'époque candidat à la Maison Blanche. Il est à côté de son concurrent Marc Rubio. Et il y a tout un... maintenant, ça fait le buzz sur Internet. C'est une séquence dans laquelle il dit « Mais est-ce que j'ai des petites mains, moi ?» Et puis je dis « Ben non, regardez mes mains. Je peux vous dire que moi, avec les mains que j'ai, je peux vous dire que le reste aussi. Hein, ça, sous-entendu, je peux vous dire j'en ai une grosse. » Et c'est complètement... C'est trois niveaux d'erreur ou d'infantilité, si vous voulez. D'abord, considérer que les mains sont un indicateur de la taille du sexe, c'est faux. Deuxièmement, considérer que la taille du sexe est un indicateur de la performance sexuelle, ça reste à prouver. Et troisièmement, que la puissance sexuelle est un indicateur de la puissance tout court.
Mais oui.
Et lui, il est en plein là-dedans, puisque même lui, il est capable de dire « Je suis tellement célèbre que je peux me permettre de les attraper par le sexe. » Vous vous souvenez de cette fameuse phrase qui ne lui a pas coûté la présidence. C'est ça qui m'a toujours fascinée. C'est que non seulement ça ne lui a pas coûté, mais si ça se trouve, ça l'a même porté, peut-être même porté au pouvoir. Parce que dans l'esprit de beaucoup d'hommes, un homme qui a une puissance sexuelle, c'est l'indicateur de sa puissance guerrière, politique, militaire, puissance tout court, donc de son rayonnement.
Et encore aujourd'hui en plus. Il y a une autre dimension du phallus, et on le voit bien dans les mots qu'on utilise pour le désigner, dans l'argot, donc la lance, le pistolet, le gourdin, le braquemar, la matraque, c'est des noms d'armes. Qu'est-ce que ça veut dire, ce vocabulaire guerrier ?
Mais on en revient à cette distinction du pénis et du phallus, et le phallus comme outil de domination et comme outil de pouvoir. Et je vous ferai simplement remarquer que ça va très loin, parce qu'il s'agit aussi d'affirmer son pouvoir sur l'autre homme. Et pas seulement, c'est pas seulement une domination sexuelle de l'homme sur la femme. C'est aussi et surtout dans certaines expressions, comme par exemple, je vais être vulgaire, je te baise, je t'encule, je te nique. Excusez-moi, mais on les entend quand même beaucoup et souvent, et notamment au volant. Et qu'est-ce que ça dit ? Sinon, mon sexe est capable de t'assaillir comme une arme, de te blesser, même voire de te détruire, le fameux déglingage qu'on entend beaucoup, et qui signifie que mon pénis, je peux m'en servir comme une arme. Et moi, j'ai été très frappée par une étude que j'ai lue de Human Rights Watch sur le viol carcéral. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est de voir que c'est un grand, grand, grand tabou, mais c'est très fréquent, le viol carcéral. Et en fait, les violeurs, les prédateurs ne se considèrent pas du tout, ne sont pas des homosexuels, ils sont souvent mariés, il y a des posters de nanas avec des gros seins dans les cellules, etc. Mais ils violent d'autres détenus qui sont considérés comme féminins et féminines, tout simplement parce qu'ils ne possèdent pas les marqueurs de la virilité triomphale, peut-être parce qu'ils sont trop petits, trop maigres, ou qu'ils n'ont pas de goût pour la bagarre, à la récréation. Et du coup, ils se font violer parce que là, c'est une manière de dire « je te domine, moi je suis dominant, moi je suis au-dessus ». Donc, ça vous prouve à quel point le pénis est assimilé à l'arme et tout simplement à la domination, et c'est ce qui est très dommage.
À la domination des hommes sur les femmes et aussi
et des hommes sur les hommes.
Oui. Ça me fait une transition parfaite pour le 9e épisode dans lequel on va poursuivre sur ce sujet, sur ce très vaste sujet de ce que les hommes font aux autres hommes. On va se pencher sur le dressage à la virilité, sur l'éducation et voilà. Olivia Gazalet, merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était le 8e épisode des Couilles sur la table, le podcast consacré aux masculinités produit par Binge Audio. Toutes les références sont à retrouver en ligne sur le site binge.audio. Si cet épisode vous a fait réfléchir, parlez-en autour de vous et partagez-le sur Facebook, Twitter et tous les autres réseaux sociaux. Merci beaucoup. Bisous.
Binge Audio. Ah non, Binge.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la table et des Couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair. Dans le podcast Le Cœur sur la table.